SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tungandamé et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pour une heure de français sur SBS Audio ce dimanche 30 juin. Au sommaire de cette édition, on parlera de littérature avec la parution du troisième livre de Patrick Crouch. On parlera également des sports avec une exposition en marge des JO de Paris. Mais tout de suite, l'ambiance préélectorale en France à quelques heures des législatives anticipées 2024 sous le regard d'un historien, Romain Fati.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On a le plaisir d'avoir Dr. Romain Fati, qui est Senior Lecturer, School of History, au Research School of Social Sciences à ANU, Australian National University. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Ducasse.
D'habitude, vous êtes notre invité pour parler de l'histoire cachée d'Australie. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on va parler de la politique française. Et vous êtes sur place en France actuellement. Et on va parler de cette campagne des législatives, une campagne express, disent certains. Et depuis votre arrivée en France, est-ce que vous avez été surpris par cette percée du Rassemblement national?
Eh bien, pas tellement. En fait, là, c'est l'historien qui parle. Et je vous dis pas tellement à deux égards. Le premier égard, c'est que déjà, je ne pense pas que l'on puisse coller des résultats d'élections législatives où 48% des Français se sont abstenus sur des élections législatives. L'enjeu est national et pas européen. La mobilisation sera sans doute beaucoup plus forte. Donc, est-ce que le même schéma de vote va se reproduire? Je ne sais pas. Pour ce qui est de la montée du Rassemblement national, il s'explique par plusieurs choses. Et la première de ces choses, il faut le reconnaître, c'est le succès de Madame Le Pen d'avoir réussi à transformer un parti d'extrême droite radicale en un parti populiste. Pour les auditeurs qui seraient les plus jeunes d'entre nous, il faut se souvenir que le Rassemblement national s'appelait avant Front National et qu'il a été formé par des individus qui ont parfois été au tribunal et ont perdu leur procès parce qu'ils faisaient l'apologie de l'Holocauste ou parce qu'ils faisaient partie d'anciennement des partis pro-Algérie française. On a vu aussi des cadres du Rassemblement national avec des liens très forts avec des personnes très peu fréquentables pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, j'entends la SS, ouais, et les nazis. Donc il y a un background historique qui est avéré. On ne peut pas nier la tradition fasciste et de droite dure du Front National. En revanche, on sait très bien que Marine Le Pen a travaillé extrêmement dur pour dédiaboliser le Front National. Et la dédiabolisation a été un réel succès. C'est-à-dire que le parti a réussi à augmenter sa base électorale sur des franges de l'électorat qui n'étaient traditionnellement pas les siennes. Ça a commencé avec les travailleurs. On a vu qu'un certain nombre de travailleurs passaient de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et puis, les retraités. en jouant sur certaines peurs très ancrées dans cette catégorie sociale. Et puis, plus récemment, les jeunes, avec le succès de M. Bardella sur les réseaux sociaux. Ce faisant, ce succès, il faut le relativiser, parce qu'il est fondé sur, pour le dire très clairement, raconter tout et n'importe quoi à l'électorat. C'est-à-dire que les promesses qui sont faites au Front National aujourd'hui n'ont plus de cap politique. Avant, le Front National avait une lecture extrêmement claire, alors on pouvait être d'accord ou probablement pas d'accord avec ça, mais il y avait une idéologie assez droite, assez claire. Aujourd'hui, ce qui est devenu Rassemblement National propose des choses complètement antithétiques. Quand on compare par exemple, ce qu'il propose en termes social ou éducatif, vis-à-vis de ce qu'il propose sur l'immigration, enfin, on a un programme girouette. Qu'est-ce que la population pense ? Alors, le cas typique, c'est les retraites. On voit bien qu'ils ont énormément de mal à clarifier leur situation. Un jour, c'est 60 ans, un jour, c'est 62 ans. Puis, un jour, on va rien faire. Et puis, non, comme, voilà. Donc, en termes de programme économique, c'est clairement, en anglais, on dit wishful thinking. Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment aussi que l'électorat ne se mobilise pas, que les candidats sont assommés, c'est une campagne assez rapide, trop courte, il y a probablement le rôle des vacances d'été dans tout cela ?
Oui, bien sûr, mais ça, c'est la stratégie du président. Il y a deux choses pour répondre à cette question. La première, c'est que cette campagne est nécessairement courte parce que c'est un impératif constitutionnel. Quand vous dissolvez l'Assemblée nationale, avec l'article 12 de la Constitution, cet article vous donne au minimum 20 jours et au maximum 40 jours pour organiser des législatives. Donc, ces législatives sont finalement dans la norme. Elles auraient pu peut-être être reculées d'une petite semaine, mais alors on aurait été voté le dimanche 14 juillet, ce qui n'est pas concevable pour les Français. Donc, on tombe un tout petit peu avant l'été. On a vu que énormément, des centaines de milliers de Français se sont précipités pour faire des procurations. Je pense que mobilisation, il y aura. Que l'on s'en réjouisse ou non, a priori, il semble plutôt qu'on tende vers un score assez important de participation dès le premier tour pour ces législatives. Quant à la question des députés, évidemment, M. Macron a dissous l'Assemblée nationale au moment probablement le plus propice pour lui et son parti. Aurait-il attendu septembre, voire octobre et la rentrée politique ? Il est très certain que le soutien à sa majorité se serait encore plus érodé. Donc, choisir de faire ça avant les JO, avant l'été, le vrai été, correspond à une logique de se dire on va limiter l'hémorragie. Et par ailleurs, peut-être que on va même consolider notre base électorale. Alors ça, je n'en suis pas certain. Et enfin, une chose qui est assez importante, c'est que cette élection suit de très près l'élection européenne où de nombreux acteurs se sont épuisés sur le terrain et ont dépensé énormément d'argent de parti. Et donc, il attrape un peu les partis, en surprise, et cet effet de surprise peut-être jouer en sa faveur. Ça, on ne peut pas faire de prédiction, on le saura dimanche 30 juin à 20h.
Donc il y a cette possibilité d'une remontada, comme on dit, pour ce parti présidentiel à quelques jours du premier tour ?
Elle me semble difficile, mais elle n'est pas exclue. C'est-à-dire que moi, l'analogie qui n'est pas nécessairement bonne, on se souvient, et elle n'est pas bonne parce qu'il y a une question d'échelle, on se souvient de 1968 et de la crise politique profonde, et la crise, la France s'est arrêtée pendant 3 semaines, 1 mois, et énorme contestation du gouvernement de Gaulle. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les urnes quand il a le courage de dissoudre l'Assemblée ? Une majorité pour le parti gaulliste, comme il y en avait rarement eu. Je ne pense pas que ce cas va se reproduire, parce qu'on n'est pas dans une situation de chien-lit, comme aurait dit le général de Gaulle à l'époque. Comparable. Hein. C'est pas la crise des Gilets jaunes, c'est pas mai 68. Donc effectivement, l'argument « c'est moi le chaos » ou « c'est moi le désordre » prend probablement moins. Mais étant donné qu'il y a une polarisation des extrêmes, Quand vous avez un parti du centre en France, vous écrasez forcément la gauche modérée et la droite modérée. Si bien que les gens qui restent dans ces partis traditionnels de gauche modérée et de droite modérée sont obligés de s'allier avec des pôles plus forts vers les extrêmes. On l'a bien vu, hein, le glissement d'Éric Ciotti vers l'extrême droite qui s'est opéré déjà depuis des années, mais qui l'a été officialisé. Et les modérés, des gens qui ont voté Glucksmann au Parti Socialiste, qui découvrent qu'en fait, bah, ça va être le nouveau Front Populaire avec un pôle fort de chez LFI, on voit bien cette polarisation de l'électorat. Donc peut-être que cette polarisation trop à gauche et trop à droite peut faire fuir un certain nombre d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans les mouvements populistes. Voilà.
Et le jour après, le 8 juillet, quel scénario envisage-t-on ? Une coalition inédite ? Est-ce que si la coalition de la gauche arrive au gouvernement, est-ce qu'elle va pouvoir tenir au long terme ?
Alors, très clairement pas, mais je vais vous répondre avec tout un tas de scénarios possibles. Le premier scénario, qui pour moi, je pense, c'est le moins réaliste, ce serait une majorité complète, une majorité absolue, donc au moins la moitié plus un des 577 sièges de l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national. Pour tout un tas de raisons, je ne pense pas que ce soit possible, ne serait-ce que parce que la logique des triangulaires au second tour risque de jouer en leur défaveur. Deuxième cas de figure, une coalition Rassemblement national avec certains députés Reconquête et Républicains d'Éric Ciotti, où là, effectivement, le Front national a une majorité en minorité avec des alliés et peut proposer un gouvernement. Bon, c'est une possibilité, elle est plus probable que la première que je vous ai donnée, mais je trouve qu'elle est faible. Après, vous avez la possibilité d'une majorité présidentielle renforcée, mais un peu plus clivée. On voit bien que monsieur l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a pris ses distances pour des raisons qui sont les siennes vis-à-vis de 2027. Cette possibilité d'un gouvernement Macron renforcé, elle existe également, mais elle est plutôt faible. Après, vous avez l'extrême inverse d'une gauche qui serait, je ne lui donne pas la possibilité de se retrouver en situation de majorité absolue. Très clairement, je ne pense pas que ce soit possible. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait sur ce point-là. Peut-être qu'une gauche en minorité arriverait à séduire les ailes de gauche des partis centristes. C'est une possibilité. Moi, la possibilité que je vois peut-être la plus clair, ça va être une alliance de la majorité présidentielle qui va se retrouver assez sévèrement ballottée par le groupe, par exemple, Parti Socialiste à l'intérieur du Nouveau Front Populaire et par les Républicains modérés qui n'ont pas voulu rejoindre Éric Ciotti. Et donc, c'est la majorité d'entre eux. Donc, si vous avez un groupe ensemble, donc c'est-à-dire Modem, Horizon et Renaissance, la majorité présidentielle, qui souhaite travailler avec des modérés du Parti Socialiste et des modérés du Parti Républicain, les Républicains, pardon, c'est une possibilité. C'est-à-dire que le jour d'après, on va se retrouver dans des situations où il va y avoir énormément d'accords entre les partis pour définir une manière de travailler ensemble. La France n'y est pas habituée, hein. C'est quelque chose de très commun en Belgique, de très commun en Italie, de très commun en Allemagne. Mais en France, on a l'impression que des gens qui travaillent ensemble dans des partis différents, c'est une hérésie. Or, pas du tout, parce que généralement, ces gens-là ont quand même l'intérêt de la France, faut l'espérer, au devant d'eux. Donc, je n'ai pas de réponse claire à vous donner. Je vous ai donné une série de possibilités. Personnellement, j'aurais du mal à leur donner un pourcentage. Je trouve qu'on est dans une situation où les choses évoluent vraiment au jour le jour. Là, on voit qu'il y a une polarisation qui se clarifie entre un pôle Front Populaire à 25, 27, 28% des intentions de vote, un pôle majorité présidentielle autour de 20, 21, 22 et un pôle RN entre 32, 33, 34%. Mais ça, c'est le premier tour. Ce qui va se passer au deuxième tour, ça dépendra réellement des situations triangulaires où certains candidats se choisiront ou pas de se désister.
Et si jamais il y a un gouvernement dirigé par le RN, le Rassemblement National, quel sera l'impact sur l'avenir des relations franco-australiennes ?
Très clairement, je vous le dis et je l'espère de tous mes voeux. Je pense qu'il faut être honnête avec les auditeurs. Je n'ai aucune affiliation avec un parti politique, mais très clairement, je n'irai pas voter Rassemblement National, ce parti, voilà. Je préfère le dire très clairement, donc parce que ça a un impact sur mon analyse et qu'il faut être honnête. Je ne pense pas que cette situation soit probable. En revanche, si effectivement le Rassemblement National était mené à former un gouvernement dans le cadre de la Ve République, généralement, la politique étrangère échoit au président. Parce qu'il faut bien se rappeler que si M. Bardella était appelé aux fonctions de Premier ministre parce qu'il avait une majorité claire, M. Macron demeure le président de la République avec les prérogatives qui sont celles d'un président de la République. Certains de nos auditeurs se souviendront des années Chirac-Mitterrand, où vous aviez Mitterrand qui partait dans un Concorde à l'ONU et Jacques Chirac qui le suivait dans un second Concorde. Pas parce qu'ils se détestaient au point de ne pas voyager ensemble, pas du tout, simplement c'était pour une question de sécurité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour tout ce qui était politique étrangère, à l'Europe également, on voyait le président français et puis après son premier ministre qui faisait un second discours, parfois différent. Donc c'est des situations un peu compliquées. Vis-à-vis de l'Australie, dans la mesure où l'Australie n'est pas un de nos partenaires majeurs, hein, très clairement les ambassades qui comptent, vous avez Berlin, vous avez Washington, vous avez Londres, l'Australie compte, mais ce n'est pas un de nos partenaires prioritaires. C'est un partenaire important, puisque nous sommes deux démocraties libérales. C'est un partenaire avec lequel il y a beaucoup de choses à développer, mais je ne pense pas qu'un changement de gouvernement de ce côté-là entraîne des changements de politique étrangère radicaux, dans la mesure où, si on oppose la présidence de la République au gouvernement, il faut se rappeler que dans la politique française, le MAE, le ministère des Affaires étrangères, enfin anciennement, puisque le ministère de l'Europe des Affaires étrangères, est assez, je n'aime pas utiliser l'expression un État dans l'État, mais c'est un ministère qui est plus constant, voilà, plus traditionnel, on va dire ça comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que les changements risquent de ne pas être aussi majeurs qu'on pourrait les attendre. Sachant que je vois très clairement mal une majorité Front National le 8 juillet.
Docteur Romain Fati, merci infiniment d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et à très bientôt pour l'histoire cachée d'Australie.
Mais je vous remercie, bonne journée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Dans une chanson, ça c'est vraiment toi, suivi d'une courte pause, puis actualité dans le monde du sport. À tout de suite.
Aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Voilà, à quelques semaines du lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de Paris 2024, le Musée national de l'histoire de l'immigration présente jusqu'au 8 septembre l'exposition Olympisme, une histoire du monde. Exposition qui se penche sur l'histoire sociale et politique des 30 dernières éditions. Elle met en lumière les combats et luttes politiques menées sur la scène olympique depuis l'organisation des premiers Jeux à Athènes. L'historien et chercheur associé au CNRS Pascal Blanchard revient au micro d'Olivier Roger sur cette exposition dont il est l'un des commissaires.
Bonjour Pascal Blanchard. Alors on le voit bien dans cette exposition consacrée à l'olympisme moderne, dès 1896 et les premiers Jeux d'Athènes, ces Jeux olympiques reflètent les bouleversements de la planète et parmi ces bouleversements, il y a un événement majeur au tournant des années 60, la décolonisation. Est-ce que les États africains notamment sont présents dès 1960 et les Jeux olympiques de Rome ?
En 60, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a peu de nations encore indépendantes. Pourquoi ? Parce que la plupart des pays vont tout juste avoir leur indépendance. Donc beaucoup d'Africains, par exemple, puisque l'année, c'est les grandes années des indépendances françaises, par exemple dans l'Empire colonial français, vont encore concourir en 60 pour la France. Parce que les gens pensent que les nations africaines ou asiatiques sont arrivées au jeu, la fleur au fusil en sortant... Non, ils étaient déjà dans les équipes nationales. Donc en 60, vous avez énormément d'Africains qui sont dans les équipes françaises, notamment de football par exemple. Et c'est en 64 que la plupart de ces nations africaines vont arriver pleinement et totalement indépendantes au jeu. Pour les nations asiatiques, c'est dès 56, voire en 60.
Et c'est, on imagine, une révolution pour le monde.
C'est un bouleversement total. Le nombre des nations va être en 12 ans multiplié par 2. D'un seul coup, c'est tous ces ex-empires qui accèdent à l'Olympiade et qui accèdent à une reconnaissance monde. Je ne sais plus qui disait cette phrase essentielle, il est plus important d'avoir un comité national olympique que d'être inscrit à l'ONU. Ça nous paraît un paradoxe aujourd'hui, mais pas pour une jeune nation. Une jeune nation qui ramène des médailles, c'est de construire l'identité nationale. Et beaucoup de pays africains, ou beaucoup de pays asiatiques, ont eu des frontières dessinées par le colonial. Pour plein de pays, la notion même de nation n'avait pas de signifiant. Et il y avait un long débat. Je rappelle qu'en 63, l'Organisation de l'Unité africaine se pose la question de l'intangibilité des frontières. Faut-il revenir dessus ou non ? L'olympisme, c'est le moment où vous avez des gens du nord, du sud, des ethnies différentes, des populations différentes d'une nation, qui vont d'un seul coup autour d'une équipe nationale, par exemple, avoir ce ressenti, ce premier sentiment de défendre des couleurs communes. C'est pour ça que l'olympisme a été fondamental. Fondamental parce qu'à la seule coup, il a posé sur la carte du monde des nations indépendantes, il a posé l'identité nationale, il a aussi, d'une certaine manière, permis à ces nations d'être reconnues dans le jeu des nations, et il a permis une chose qui était importante, de rentrer dans le grand jeu des nations.
Alors d'un point de vue sportif, on peut penser que les ex-colonies n'étaient pas encore tout à fait prêtes à envoyer des sportifs, notamment de haut niveau, en masse.
Vous savez comment, il faut une décennie pour fabriquer du sportif. C'est long, une génération de sportifs. Parce qu'à la seule coup, il a fallu aussi pour ces pays qui avaient peu d'infrastructures. Essentiellement à l'infrastructure coloniale. Aux colonies, très peu de sportifs coloniaux. Beaucoup de blancs pratiquaient le sport, mais très peu de coloniaux pratiquaient le sport. À part en Algérie, d'une certaine manière, et un peu au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ces infrastructures, dans beaucoup de l'Empire, par exemple, portugais ou dans l'Empire britannique, il a fallu structurer ce sport, organiser ce sport, créer des CIO, tous ces comités nationaux olympiques, africains, asiatiques, qui vont fabriquer, un peu comme a fait l'Union soviétique d'une certaine manière, des ambassadeurs de leur pays, parce qu'ils étaient les premiers porte-flammes monde de l'identité de ces nations. Et donc, ils sont devenus des sportifs officiels. Et puis, c'est le moment, nous on le voit aujourd'hui avec peut-être un petit peu d'ironie, mais vous étiez à équité avec d'un seul coup l'Occident. Vous aviez votre délégation, votre drapeau, votre hymne national. Et ce qui peut nous paraître paradoxal au XXIe siècle ne l'était pas du tout dans les années 60-70. C'est la première fois où vous aviez sur un podium, potentiellement, quelqu'un qui allait gagner, non pas pour un empire, non pas pour un pays ségrégué, comme l'Amérique ou le Japon impérial, mais pour votre propre pays, votre propre nation. Donc ça a compté dans la représentation et de même dans la reconnaissance de ces pays.
Et rapidement, les nations africaines vont prendre conscience du poids politique que représentent ces Jeux Olympiques, avec notamment, on peut en parler, le boycott des JO de 1976.
Alors c'est encore même plus ancien que ça, parce que dès 68, les nations africaines annoncent au CIO qu'elles vont boycotter les Jeux si l'Afrique du Sud est là. Et le CIO, pour la première fois, enfin, il l'avait plié en 1920 en demandant à l'Allemagne, à la Turquie et à l'Autriche de ne pas venir aux Jeux, à l'Allemagne, les Américains, les Anglais, les Français, post-Première Guerre mondiale, mais là, d'un seul coup, c'est l'inversion. C'est les nations africaines qui considèrent et qui disent au CIO, si l'Afrique du Sud, de l'apartheid, continue à être présente dans le comité olympique et peut participer aux Jeux, nous ne viendrons pas. C'est tôt, 68, c'est-à-dire 8 ans après la grande vague des indépendances. Et le CIO va plier. Le CIO va expulser l'Afrique du Sud en 68. 8 ans plus tard, 76, Montréal, c'est un peu différent. Les sportifs africains et africaines arrivent à Montréal. Rappelez-vous, il y a eu Soweto avant. L'impact est total, sauf que dans les délégations, dans les pays officiels, ça commence un peu à bouger, il y a plusieurs tendances. On va dire les pays du bloc de l'Est, type la Tanzanie par exemple, sont plutôt pour une réflexion, un signe fort, un acte fort. Surtout vient d'avoir une tournée de la Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud. Et ils prennent ce prétexte-là en disant, il ne faut pas accepter la Nouvelle-Zélande qui a trahi les valeurs en allant concourir, en faisant une tournée de rugby. La pression va monter, mais surtout c'est que le fait que les sportifs en arrivant à Montréal, ils arrivent tous, hein, commencent à parler entre eux. Les délégations commencent à parler. Et là, le pouvoir bascule aux sportifs. C'est eux qui, d'une certaine manière, vont mettre la pression sur leurs délégations et sur leurs collègues et vont dire « c'est inacceptable de participer à ces Jeux ». Après Soweto, il faut mettre la pression au CIO. Et là, le CIO ne va pas plier. Et donc, ils vont poser des sacs ils vont tous repartir dans leur pays. 441 sportives et sportifs, avec deux autres nations qui vont les soutenir, je trouve génial, le Guyana et l'Irak. Je n'ai jamais su pourquoi ces deux pays soutiennent le boycott africain. Et donc, c'est le premier boycott, et vous le verrez dans l'exposition. Ça paraît bête à dire, mais à un moment, on s'est tous regardés, on s'est dit, mais qu'est-ce que tu montres comme image de sportifs qui font pas de sport? Qu'est-ce que tu montres comme image d'un boycott, en fait, de types qui sont venus, qui ont peut-être entraîné 4 ans, 8 ans, dont certains avaient des potentialités en boxe, en athlétisme, comme Bailly et compagnie, de d'immenses manières. C'est le sacrifice de leur vie de repartir. Et en fait, on a trouvé une série de photos incroyables dans une photothèque en Californie, où vous voyez les gars qui attendent leur bus avec tous leurs sacs posés devant eux.
1976, Montréal, le boycott africain, donc sauf deux pays africains qui ne s'associent pas au boycott.
Et c'est là qu'on rentre dans la diplomatie post-coloniale. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, à cause de qui ?
La France.
La France, qui met la pression diplomatique sur d'un côté Senghor et de l'autre côté au Fouet-Boigny en disant... Et c'est là qu'on voit tous les rapports compliqués des nations occidentales à ce moment-là, dans ce rapport qu'il y a à participer ou non. Et là, c'est le sport et la politique. Alors, c'est pas lié ? Mais bien sûr que c'est lié. C'est lié parce que c'est le dernier endroit où les nations se représentent. Le dernier endroit où les nations prennent la parole. C'est pourquoi ça fait tant polémique, des fois, la constitution d'une équipe de foot et compagnie ? C'est parce que c'est l'endroit où vous symbolisez une nation. Vous la montrez à votre opinion. Quand vous avez une équipe qui est issue des diversités, par exemple, qui est multicolore et compagnie, bah, vous la montrez, cette diversité. Et donc, pour certains, c'est tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Et c'est le dernier endroit où, quand vous mettez 11 joueurs sur un terrain ou 15 joueurs sur un terrain dans le rugby ou une équipe de volley ou de basket, vous voyez cette diversité du monde. Et d'un seul coup, bah, ça déclenche, par définition, dans les deux sens, hein, soit de la reconnaissance, soit du refus. Rappelez-vous les phrases de Jean-Marie Le Pen en 96 sur l'équipe de foot, rappelez-vous les blagues qui faisaient rire toute l'Europe, rappelez-vous les débats qui avaient existé, et l'affaire Nakamura n'est ni plus ni moins que la continuité de ce qui s'est passé avant et depuis très longtemps. Dès les années 30, certains dénonçaient les métèques présents, trop présents en équipe de France de foot. Ce débat, il n'est pas neuf, et il continuera, il perdurera, parce que quelque part, il est un des reflets, et le sport est un des reflets du national, est un des reflets des questions identitaires.
Merci beaucoup, Pascal Blanchard.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Pleurer, c'est une rivière au fond des yeux qui déborde quand il peut pleurer. C'est dessiner la mélancolie avec un pinceau tout gris. Pleurer, c'est déranger les anges qui dorment sous tes paupières. Ils secouent leurs ailes toutes mouillées et vont au soleil se sécher. Pleurer, c'est laver ton âme, secouer la poussière de tes drames et rire comme une éclaircie. Il fait beau sous la... Ah, et belle Mouna, belle Mouna. Ah, et belle Mouna.
Ah, il fait beau sous la pluie, une chanson de Pat Kala et le Super Mojo. À présent, une courte pause, et après la pause, Jean-Noël Ducasse en conversation avec Patrick Crouche à propos de son dernier livre.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio SBS Patrick Crouche. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Noël.
Et vous êtes venu nous parler de votre nouveau livre Now We Can, We Do. C'est, d'après ce que je comprends, un recueil de short stories, d'histoires courtes et passionnantes. Alors, racontez-nous cette nouvelle œuvre.
Alors, c'est mon troisième livre. Il vient tout juste d'être publié, Now We Can, We Do. Sous mon nom de plume, je dois dire,
oui.
Jacques Couche, C2OSH, c'est un recueil de nouvelles, de short stories, qui tranche avec mes deux premiers romans, parce que je voulais un nouveau défi, je voulais écrire un genre différent. Le premier roman, c'était un roman autobiographique, le second un polar, un murder mystery. Donc je voulais quelque chose de différent, comme un défi à moi-même, un challenge. Et donc ce recueil de 15 nouvelles, dont deux sont écrites en français et que j'ai traduit en anglais. Ce sont des histoires diverses, très mixtes.
Situées en Australie?
Un peu partout dans le monde, disons. Ouais. C'est de la fiction, c'est de la non-fiction, c'est des faits réels, c'est un mélange des deux. C'est des contes de voyage, donc certaines histoires se passent par exemple au Brésil ou en Russie. D'autres traitent de sujets importants de ma vie, d'événements importants. Les deux histoires écrites en français relatent des événements qui se sont passés quand j'habitais encore à l'île Maurice. Je viens de l'île Maurice et j'ai vécu les 25 premières années de ma vie à l'île Maurice.
Ouais.
Avant de quitter l'île. Et ces deux...
Et vous êtes venu en Australie après les 25 ans passés à Maurice?
Non, pas tout de suite. D'abord, je me suis rendu en France. J'ai habité à Paris pendant quelques années. J'ai la chance d'avoir un passeport britannique. Donc, c'était avant le Brexit. Donc,
c'était avant 1968, ouais, avant l'indépendance à Maurice.
Tout à fait, c'est une longue histoire. Je suis né à Londres, de parents mauriciens, mais mes parents étaient en vacances. Donc, il se trouve que je suis né à Londres, donc j'ai obtenu comme cela la nationalité britannique. Et ça a été vraiment un passeport pour voyager, véritablement, dans le vrai sens du terme. Donc, j'ai fait quelques années à Paris. Et puis, de là, j'ai été à Chypre. C'était dans les années 80, c'était la guerre au Liban. Chypre, c'est tout près du Liban. Mm-hmm. Et j'ai été à Chypre, j'étais professeur de mathématiques dans une école libanaise à Limassol, dans la partie grecque de Chypre, pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, donc c'est de Chypre que j'ai émigré vers l'Australie.
Et pourquoi avoir choisi l'Australie et pas retourner en Europe? Des raisons personnelles.
Pour des raisons personnelles, et c'est pour cela en fait, j'allais dire. Donc, pourquoi? Parce que donc je suis homosexuel, j'avais un partenaire libanais à l'époque et on savait pas où aller puisque les autorités chypriotes n'allaient pas renouveler mon permis de travail après 2 ans. Ils voulaient, comme j'étais pas libanais, le seul non-libanais à enseigner dans une école libanaise, l'enseignement du reste se faisait en français. Et donc on s'est dit où est-ce qu'on va? Et c'est comme cela qu'on a pensé à la Scandinavie peut-être. Mais moi, avec le froid, c'était pas évident. Mais finalement, donc, on s'est retrouvé en Australie. C'est tout ça que je raconte dans mon premier roman, en fait, qui est autobiographique. Comment ça s'est passé?
Le premier roman s'appelle A Journey of Pride.
Voilà. C'est ça? From Mauritius to Melbourne, que j'ai publié en 2015. Donc, ça couvre une douzaine d'années de ma vie, à partir de mon départ de l'île Maurice, et puis habiter à Paris pendant quelques années, ouais. Et puis à Chypre, et puis à Sydney. Quand je suis arrivé en Australie, j'étais à Sydney avant de venir sur Melbourne. Donc c'est 12 ans que je raconte dans ce roman parce que il y a plein de rebondissements, de péripéties, et beaucoup de personnes me disaient mais il faudrait écrire un livre, on pourrait faire un film. Et donc j'ai décidé d'écrire ce premier roman puisque bon, l'homosexualité, c'est toujours encore tabou à l'île Maurice. C'était ça mon but.
C'est toujours tabou en 2024.
Ouais, c'est ce que je comprends. Ouais, c'est toujours très difficile.
Et les mentalités n'ont pas changé.
Peut-être un peu, mais très lentement. C'est pas tabou, c'est pas interdit, mais c'est tabou encore. Et je voulais juste raconter ma vie.
Ouais.
Et donc c'est ça le premier roman, et Journey of Pride, sous mon nom de plume, Jacques Couche. Et si vous lisez le premier roman, vous comprenez pourquoi j'ai choisi un nom d'auteur et pas mon véritable nom. Et je pensais qu'il y avait qu'un seul roman en moi en fait. Et mais après avoir pris goût à l'écriture, j'avais pris, une retraite anticipée. Donc j'avais du temps libre, ce qui m'a permis d'écrire. Je m'y suis consacré, immersé à écrire ce premier roman. J'ai pris goût à l'écriture et comme il a été très bien reçu, donc j'ai décidé d'écrire un second, donc The Second Inspector et Honeymoon Gone Wrong, qui se passe, donc c'est un meurtre qui se passe dans une île paradisiaque qui n'est pas nommée, mais je suis sûr que vous devinerez. Et c'est un genre différent aussi. Je voulais me pousser challenge. Et c'est comme ça, donc, que le second roman a vu jour. Je l'ai publié juste avant le Covid. Et lui aussi, il a été très bien reçu. Toujours sous mon nom de plume, Jacques Couche. Et donc, voilà maintenant le troisième recueil.
Tous les trois livres ont été écrits en Australie.
Oui. Je vis à Melbourne, les trois à Melbourne, en fait. Et le troisième, donc, je voulais, là encore, un autre défi. On pourrait penser qu'écrire une nouvelle, a short story, c'est plus facile, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est différent. Je voulais inventer de nouveaux personnages qui trancheraient avec ceux de mes deux premiers livres. Je voulais...
Pour faire suite au Second Inspector?
Oui, mais aussi inventer de nouveaux scénarios dans un espace limité, avec des personnages, bon, pas très nombreux. C'est donc la nouvelle, c'est que quelques pages, il faut être très subtil, disons, pour raconter une histoire en quelques pages seulement. Mais j'y ai pris plaisir et souvent il y a un dénouement surprenant à la fin. Et donc c'est 15 histoires, c'est des histoires très diverses, mixtes. Comme je disais, c'est de la fiction, c'est de la non-fiction, c'est un peu des deux. Mais j'ai pris plaisir à écrire ce recueil. Donc,
et quelles ont été un petit peu les sources d'inspiration pour ce troisième volet?
D'abord, je voulais à tout prix écrire deux de ces histoires en français, les traduire en anglais. Parce que, pourquoi écrire en français? Parce que si je les avais écrites à l'époque où je les ai vécues, ces événements, j'habitais à Almeris, je les aurais écrites en français. Donc, les écrire en français, c'était pour mieux refléter...
C'est la langue maternelle.
Et puis mieux refléter mes sentiments, mes émotions de l'époque. Et puis, j'ai pris plaisir aussi à les traduire en anglais. Les autres sources d'inspiration, c'est les voyages. J'ai beaucoup voyagé, j'aime bien le voyage, j'aime bien l'aventure, découvrir de nouveaux horizons. Et donc, il y a quelques contes de voyages. Donc, l'une qui se passe au Brésil, l'autre en Russie, l'autre encore dans la neige en Autriche. D'autres événements aussi.
À Maurice? Également?
Oui, il y a des événements qui me sont très personnels. Par exemple, je parle de notre mariage. Donc, je suis maintenant mon partenaire, il est néo-zélandais. Et on s'est marié quand on a pu le faire en Australie en 2018. D'où le titre du livre, du reste. La dernière histoire s'appelle Now We Can, We Do. Et qui donne le titre du livre, c'est parce que Now We Can, parce qu'avant, on pouvait pas se marier.
Même en Australie,
c'est seulement en 2017, puis 2018 que c'est devenu après légal, autorisé. Et puis, We Do, parce que c'est un peu un jeu de mots, I Do en anglais.
Now
We Can, We Do, voilà, c'est ça. Et donc, c'est la dernière histoire du livre, et ça c'est donc... une fin prometteuse et pleine d'espoir.
Le livre, ça marche très bien chez le public?
Le public.
Et le public francophone?
Aussi. Oui, ça marche très bien. C'est toujours difficile quand on est un auteur, donc, pas très connu mais ça marche plutôt bien. Je fais quelques lancements. Ici à Melbourne et à Sydney, il y a quelques organisations qui m'ont sollicité pour me demander de venir présenter mon œuvre ou mes œuvres en fait.
Ouais.
Et le livre est disponible à $25 directement de moi. C'est peut-être le plus simple. Je peux donner un numéro de téléphone ou une adresse email. C'est de me contacter à ce moment-là. On peut se mettre en contact, on peut s'organiser pour se rencontrer, pour que je vous remette le livre. Et à ce moment-là, je peux aussi dédicacer le livre, qui est mieux que de l'acheter sur Amazon. Mais il est disponible sur Amazon en version paperback, enfin un livre de poche, mais aussi en version électronique. Je négocie avec certaines librairies, mais c'est déjà disponible à la librairie Hayes, enfin à la librairie Hayes and Aynes, au Pride Center à St. Kilda, et aussi à Sydney dans une librairie qui s'appelle Better Read Van Dead à Newtown. C'est un titre intéressant comme donc c'est disponible aussi en bibliothèque, in the libraries à Melbourne, dans les bibliothèques, donc en version paperback, mais aussi électronique.
Et vous avez des projets de peut-être voyager à l'étranger pour promouvoir les livres?
Oui, je vais en Europe le mois prochain. Je serai en France, à Paris, pendant les Jeux Olympiques. Donc, je vais profiter. J'ai pris quelques contacts pour essayer de promouvoir le livre. Je pense que le livre, il y a deux histoires écrites en français et en anglais. Ça peut servir comme outil de travail pour ceux qui apprennent la langue anglaise ou le français, et pour les traducteurs du reste. Donc, j'espère que je réussirai donc à le promouvoir en Angleterre et en France.
Revenons un petit peu à Maurice, où vous avez grandi. Quelle a été la passion pour écrire? Est-ce que c'est venu des parents? Il y a eu d'autres sources d'inspiration?
J'ai toujours aimé la littérature, la lecture, le côté littéraire. Du reste, quand j'étais
à l'université,
à Maurice d'abord, donc je prenais part à des concours littéraires de l'Alliance française.
Ouais.
En sus des autres études secondaires qu'on mène à l'île Maurice, et je voulais toujours en fait aller étudier les lettres, les langues. Mais quand on est jeune, quand on est à l'île Maurice, en ce temps-là, c'est mon père qui décidait. Et il me disait non, les lettres c'est trop académique, il faut quelque chose de plus sérieux. Il faut donc c'est comme ça que j'ai été étudier en Angleterre, en fait à Londres, l'économie. Mais j'étais toujours un peu je voulais étudier la littérature,
les arts,
et c'est comme ça, pendant que j'ai habité à Paris pendant 2 ans, mon partenaire libanais d'alors, il était étudiant à la Sorbonne, et lui, ça l'intéressait pas d'aller au cours, donc c'est moi qui allais à sa place au cours.
Et ça pouvait se faire.
Exactement, donc étudier la phonétique, et tout, c'était donc très très intéressant pour moi. Donc j'ai toujours aimé lire, écrire. Si j'avais commencé à écrire plus tôt, j'aurais écrit en français. Mais maintenant, ça fait 30 ans que je parle à peine le français, c'est très rare. Et je suis établi en Australie, où l'anglais prédomine. Donc, c'est l'anglais qui me vient naturellement maintenant. Mais j'ai toujours été une passion pour l'écriture.
Maintenant que vous êtes à la retraite, est-ce que vous avez d'autres passe-temps?
Oui, je fais pas du volontariat, du bénévolat aussi, entre autres pour une radio mauricienne.
La radio Triple Z.
3ZZZ.
Basée à Melbourne.
Je suis correspondant sportif et aussi j'aide, j'étais sur le comité de direction de la radio pendant quelques années. Et je fais aussi je suis un teacher's aide.
Ouais.
Donc j'aide dans une école du côté de Dandenong pour des enfants
secondaire ou primaire?
Au primaire, au niveau primaire. Ouais. Year 3, ils ont 8 ans à peu près, surtout d'origines diverses et
ah
qui
oui,
parlent pas anglais.
Dandenong.
Qui parlent pas anglais chez eux.
Ouais.
Et c'est pour aider l'enseignante dans ce cas-là, pour le numeracy et literacy, donc pour l'anglais et pour l'arithmétique, parce que je pense pas que je voudrais être prof Mais
il n'est jamais trop tard.
Parce que avoir, c'est difficile. C'est un métier difficile, en fait. Je pensais que.
C'est un challenge.
Ouais, c'est définitivement, c'est très stressant. Quand j'ai été donc prof de mathématiques pendant 2 ans dans une école à Chypre, avant, je pensais, moi, que les profs avaient la belle vie. C'était 6 mois seulement de travail et 6 heures de cours par jour. C'est pas du tout cela. C'est.
Et puis
c'est
les longues vacances.
Ouais, ouais, ouais. Et en plus, quand j'étais à Chypre, j'enseignais, c'était à des enfants séparés par la guerre, à cause de la guerre, que et puis c'était très, il y avait des élèves de confessions religieuses très bien différentes, diverses, et qui me considéraient moi comme le seul prof qui était neutre, objectif, puisque j'appartenais, je suis pas libanais. Et donc, ça ajoutait encore une autre dimension. J'étais à la pédagogie, donc c'est dur l'enseignement. Donc, je fais ça aussi comme bénévole et j'aide aussi à donner des conseils légaux aux Australiens et certains Néo-Zélandais qui ont des partenaires étrangers et qui voudraient qu'ils arrivent à émigrer en Australie. Donc, il y a plein de paperasses et de bureaucratie dont ça m'occupe. Et puis, j'ai d'autres projets pour d'autres livres dans le futur.
Patrick Krouch, merci d'être venu nous rendre visite à SBS et les meilleurs vœux pour ce troisième roman, ce troisième livre que vous venez de publier.
Merci beaucoup. Je pourrais donner une adresse email. Mon adresse email, c'est pats3121@gmail.com, ou vous pouvez me contacter sur mes pages Facebook, soit
Instagram.
À mon nom, Patrick Krouch, ou à mon nom d'auteur, Jacques Krouch, C-O-S-H.
Merci à vous.
De rien. Merci Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était Pomme qui nous interprétait sa chanson « Le temps des fleurs ». Avec cette chanson, nous arrivons à la fin de cette édition du programme en français sur SBS Audio de ce dimanche 30 juin. Prochain rendez-vous avec le programme en français sur SBS Audio, c'est mardi entre 13 et 14 heures. Merci de nous avoir suivis ce dimanche après-midi. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Bon après-midi et à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.